Si les symptômes et les conséquences de la crise sont assez semblables de part et d'autre de l'Atlantique et en Asie, les remèdes envisagés pour en sortir semblent plutôt différenciés. La similitude la plus flagrante réside dans l'effondrement généralisé de la demande. Aux États-Unis, on anticipe 10 millions de véhicules vendus pour les 12 prochains mois, là où les 16 millions réalisés l'an dernier étaient déjà insuffisants à l'équilibre du secteur. En Europe de l'Ouest, on en prévoit 12,5 millions l'an prochain, soit une perte cumulée de 2,2 millions de véhicules. Le marché allemand, par exemple, est au plus bas depuis 1990. Les conséquences, également similaires, représentent un enjeu politique majeur et global. Prenons l'exemple, de moins en moins hypothétique, d'une faillite de General Motors. Les répercussions seraient alors immenses pour ces 3600 fournisseurs directs. D'abord pour les équipementiers qui emploient 2 millions de salariés aux États-Unis, sans parler de l'étranger. Rappelons que depuis l'automne 2000, leurs effectifs ont déjà été réduits de 40%. Ensuite, pour le réseau de distribution. 650 des 20 000 distributeurs de voitures du pays vont probablement de toute façon mettre la clé sous la porte cette année. Un tiers de plus qu'en 2007 et le double de 2006. Puis, pour les filières industrielles de l'acier, de la plasturgie, du verre, des pneumatiques. Et finalement, pour les concurrents, qui, comme nous l'évoquions dans le précédent podcast, partagent certains fournisseurs et particulièrement les équipementiers, chez lesquels un effet de domino ne serait pas à exclure. En revanche, les mesures prises pour sortir de cette crise sont diverses. Aux États-Unis, on s'oriente vers la solution transitoire du pré-relais, qui permettra d'attendre l'arrivée de la prochaine administration. L'échec du plan de sauvetage face au Sénat plaide pour le déblocage de 8 milliards de dollars pour la seule survie de General Motors jusqu'en mars. Cette mesure pourrait être élargi à l'ensemble des Big Three. Pour l'administration Bush, c'est un revirement important vers une solution initialement avancée par les démocrates. Il s'agit surtout d'éviter une faillite qui pourrait coûter un point de PIB. En Europe, en Allemagne, en France, en Suède, en Espagne, face à l'ampleur de la crise et à son caractère généralisé, les États soutiennent leurs constructeurs automobiles respectifs par le biais d'aides publiques et de crédits garantis. D'autres mesures visent à soutenir la demande, comme les primes à la casse dont on a déjà pu évaluer la portée limitée. En France, les constructeurs demandent à l'État un financement dont le coût serait de l'ordre de 4 à 5%, alors qu'aux États-Unis, Daimler s'est refinancé à hauteur de 1 milliard, mais au taux de 9%, ce qui est très cher, surtout si l'on intègre le différentiel de taux de part et d'autre de l'Atlantique. La réunion qui s'est tenue lundi à Paris entre l'État et les constructeurs français apparaît comme un point de départ avant une seconde réunion prévue fin janvier. Il en ressort le principe d'une aide pour le financement des filiales de crédit des constructeurs, donc pour soutenir la demande, et d'une aide au financement de l'investissement. Celles-ci seront conditionnées au maintien de l'emploi hexagonal. Coïncidence du calendrier, c'est également lundi que la première voiture hybride 100% chinoise, produite par le constructeur Bid Auto, basé à Shenzhen, est arrivée sur le marché chinois.